VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest. Ouverture ce mardi à Niamey du sommet des chefs d'État du G5 Sahel, qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Objectif de cette réunion à laquelle participent tous les chefs d'État du groupe, plus la ministre française de la Défense, Florence Parly, boucler le financement de la force militaire conjointe de l'organisation et assurer sa montée en puissance. Lancée de début 2017, cette force conjointe a pour mission de combattre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région sahélienne. Lors du sommet, les chefs d'État présents, à savoir les présidents burkinabés, Wokmar Christian Kabore, tchadien Idriss Déby, mauritanien Mohamedou Abdelaziz, malien Ibrahim Boubacar Keïta et nigérien Mahamadou Issoufou vont plancher sur la recherche des financements complémentaires pour la force conjointe qui doit être composée de 5000 soldats des 5 pays impliqués d'ici à la mi-2018. Les groupes djihadistes dispersés lors de l'intervention française au Mali en 2013 ont retrouvé depuis un nouveau souffle dans le nord et le centre du Mali, malgré la présence de 12 000 casques bleus de l'ONU et de la force française Barkhane qui compte 4 000 hommes dans la région. Les islamistes multiplient les attaques contre les forces internationales et l'armée malienne et ont même étendu en 2017 leurs actions au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, deux pays qui sont aussi régulièrement touchés par les attaques djihadistes. En Guinée, Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante, a promis lundi une publication d'ici la fin de la semaine des résultats des élections locales de dimanche. Les détails avec Morgan Guiriek.
Je demande aux uns et aux autres de se calmer, qu'il n'ait pas peur des résultats, a affirmé M. Kébé, assurant qu'il n'y a pas d'élection sans contestation. Des responsables de l'opposition comme du pouvoir ont évoqué des fraudes lors de ces premières élections locales depuis 2005. Des opposants ont dénoncé des irrégularités. Selon eux, certains chefs de quartier ont profité de la baisse d'affluence en fin de journée pour distribuer à des partisans du pouvoir les dizaines de procurations. Le président de la CENI n'a ni confirmé ni infirmé le taux de vote par procuration, mais s'est plaint du taux de participation qui semble avoir été un peu faible. À Kindia, dans l'ouest, des affrontements ont fait un mort et plusieurs blessés hier. Les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les militants de l'opposition qui entouraient un centre de dépouillement. La CENI espère publier les résultats vendredi.
Il s'agissait de Jean-Roger Bion. Au Mali, l'État malien condamné par la Cour suprême du pays a payé plus de 38 millions d'euros à la société Goustar qui a fourni des équipements militaires à son armée. Cet achat de matériel militaire à une société malienne ainsi que l'achat d'un avion présidentiel pour un montant de 40 millions de dollars, tous deux sans appel d'offres, avait valu en 2014 à Bamako des sanctions des institutions financières international, notamment le gel pendant 6 mois des décaissements du FMI, le Fonds monétaire international. Selon le texte de la décision de la plus haute instance judiciaire du pays, la Cour suprême condamne l'État du Mali au paiement de 25 milliards de francs CFA, représentant le solde du contrat le liant à la société Goustar. Il condamne aussi à payer 600 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la société. RDC, un chef de milice accusé d'avoir semé la terreur ces dernières semaines au Kasaï dans le centre du pays, s'est rendu lundi aux autorités provinciales. Le chef Kalamba Dilondo est venu de lui-même à Kakenge. Il a été reçu par le gouverneur de la province qu'il a remis au commandant du secteur opérationnel de l'armée congolaise dans la région. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Jacobo Pembe Longo, administrateur du territoire de Mueka dans le Kasaï. Kalamba Dilondo est accusé par les autorités d'être à la tête d'une milice qui a semé la terreur à Kakenge. RCA avancé dans le processus de désarmement des ex-rebelles dans le pays. Un premier groupe d'une centaine d'anciens combattants ayant participé au projet pilote du programme de désarmement a été intégré lundi à l'armée nationale après 4 mois de formation. Le point avec Abdourahmane Dia.
Il s'agit du premier groupe issu du projet pilote du programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Ce processus a souvent fait l'objet de critiques par son immobilisme et son inefficacité. Le président Faustin Archange Touadéra, présent à la cérémonie d'intégration de ses nouveaux membres des forces armées, a exprimé son grand plaisir de voir ces résultats, reconnaissant toutefois que l'immense chantier du DDRR n'a pas eu de réel succès par le passé. Le pays a connu depuis les années 2000 trois programmes de désarmement qui n'ont jamais abouti faute de moyens. Le président Touadéra a précisé que 139 volontaires sont prêts à démarrer un nouveau cycle de formation de 4 mois. 240 autres ont été réorientés vers des programmes de formation économique avec le soutien de la Banque mondiale.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, a reconduit dans ses fonctions son premier ministre, Francisco Pascual Eyege Obama Assoué, après la dissolution du gouvernement sortant en fin de semaine dernière. Et puis, en Afrique du Sud, la semaine s'annonce cruciale pour le président sud-africain Jacob Zuma. La direction de son parti, l'ANC, a convoqué pour mercredi le comité national exécutif, l'organe supérieur habilité à révoquer le président Zuma. Ces assises se tiendront un jour avant l'adresse à la nation devant le Parlement. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité de travail de l'ANC qui évalue le rapport de la structure mandatée pour négocier le départ de M. Zuma de la présidence et la mise en place de la transition. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud l'analyste politique Achille Mbembe.
Il est fort possible que ce mercredi dans la nuit, l'ANC décide effectivement de mettre fin à la présence de M. Zuma à la présidence de la République sud-africaine.
Mais le comité de travail n'a pas le pouvoir de le destituer.
C'est la raison pour laquelle justement le Conseil exécutif national est convoqué pour mercredi dans la soirée. De cette réunion du Conseil national exécutif, on risque de sortir justement la décision de congédier M. Zuma.
Est-ce que Ramaphosa dispose d'une majorité suffisante pour justement le faire partir?
Il dispose, Ramaphosa, d'une majorité relative, telle qu'elle est sortie justement des dernières élections lors du congrès de l'ANC. L'hypothèse est que entre décembre et début février, un travail de fond a été effectué pour faire croître cette majorité. Et donc, le pronostic est que la majorité des membres de ce conseil suivra les instructions de M. Ramaphosa et déposera M. Zuma. Faute de quoi, disons, le Parlement prendra le relais et votera une motion de non-confiance qui fera chuter le gouvernement.
Comment vous expliquez la résistance de M. Zuma? Il a refusé de démissionner lors de la réunion de dimanche soir.
M. Zuma a peur d'aller en prison. M. Zuma, dans les conditions actuelles, risque de sortir du palais présidentiel pour aller tout droit devant les tribunaux. Et donc, j'imagine qu'il voudrait obtenir de l'administration M. Ramaphosa ou de ceux qu'il soutient la certitude qu'il ne sera pas poursuivi. Et donc, j'imagine que dans les négociations en coulisses qui ont lieu, M. Zuma essaye d'obtenir l'immunité par anticipation, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble de sa famille. Mais la stratégie qu'il poursuit est très risquée, à la fois pour lui-même, pour l'ANC et pour l'Afrique du Sud en général. L'ANC risque d'en sortir plus divisé qu'auparavant, et pour un pays qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être gouverné et qui a besoin de corriger la mauvaise direction qu'il a suivie au cours des 10 dernières années. Mais encore faut-il souligner que dans cette affaire, l'ANC n'est pas le seul acteur. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas confronté à bras-le-corps sa crise interne a fait en sorte que la gestion de cette affaire maintenant lui échappe. Ou en tout cas, ils ne sont pas les seuls protagonistes. Les partis de l'opposition sont aux aguets, la société civile également, les tribunaux et évidemment les milieux d'affaires.
Achille Mbembe à Johannesburg en Afrique du Sud. Et pour terminer, agitation anglophone au Cameroun. Dans un communiqué, le département d'État américain condamne les violences dans les régions anglophones du pays, notamment le meurtre de deux gendarmes camerounais dans la ville de Mbingo, dans la province du Nord-Ouest.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.